France Inter.
L'écrivain et cinéaste Éric Vuillard a étudié la philosophie, l'anthropologie et l'histoire. Son premier livre, Le Chasseur, était narré du point de vue d'un gibier. Suivront notamment Bois Vert, Conquistador sur la conquête du Pérou par Pizarro et la chute de l'Empire Inca, La bataille d'Occident sur la Première Guerre mondiale, couronnée par le prix Franz Essel, pas la guerre, le livre, Congo, 14 juillet sur la prise de la Bastille, le prix Goncourt L'Ordre du Jour sur l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938, La guerre des pauvres ou encore Une sortie honorable sur la guerre d'Indochine. Le lauréat du prix Ernst Bloch pour l'ensemble de son œuvre façonne des récits littéraires aux frontières de la fiction et de l'histoire dans un style haletant, fiévreux et cinématographique, avec toujours en filigrane la guerre, la prise de territoire, la conquête, la bataille et finalement l'éternelle question des rapports entre dominants et dominés, sachant que les rôles peuvent très vite s'inverser. Dans son nouvel ouvrage Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid paru chez Actes Sud, il revient à la période de la conquête de l'Ouest, déjà évoquée dans Tristesse de la Terre. Dedans, il dresse à la fois un portrait au conditionnel de l'enfant terrible du Far West mort à 21 ans et de celui de la naissance d'une nation, les États-Unis, et d'une société fondée sur la brutalité. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Éric Vuillard.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Alors, c'était ces jours-ci, je lisais donc un livre de Jean-Paul Michel, qui s'intitule « Tribut pour un homme libre », et dans lequel il y avait une phrase très belle, « Puisses-tu, David, lancer une autre fois ta fronde ?» Et c'est une phrase que je trouvais d'abord très belle d'un point de vue littéraire. Enfin, j'aime beaucoup la poésie de Jean-Paul Michel. Là, c'est des sortes de notes qu'il a prises il y a longtemps, je crois, dans un voyage en Italie, principalement à Florence. Et c'est à propos donc de la petite sculpture du bronze de Donatello, si célèbre, où on voit donc David qui est très gracile, insolent et qui tient le qui pose son pied sur la tête tranchée de Goliath. Et donc, cette phrase surgit et elle a quelque chose, enfin, du verbe altier et consistant en général de Jean-Paul Michel, mais elle, je trouve, c'est une phrase où on entend donc la faiblesse et la jeunesse, au fond, face à la force et à l'âge adulte, où on entend le caillou, la rusticité face à l'épée et à l'arme, et où on entend l'intelligence contre la brutalité. Donc voilà, c'est une phrase qui m'a beaucoup plu.
Je crois que c'est une des plus belles réponses qu'on m'ait faites à cette question inaugurale.
Les réactions de nos camarades correspondants de l'ORTF et de France Inter en province n'ont pas manqué. Merci. C'est Lyon qui nous appelle avec Alain Coat. Alain Coat !
Oui.
Nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation à Lyon. Vous la confirmez avec nous. Je voudrais que maintenant, vous nous disiez ce qui se passe précisément à l'heure où vous êtes à l'antenne.
Bon, à l'heure où nous sommes à l'antenne, les manifestants ont été repoussés de l'autre côté du Rhône, d'après les derniers renseignements que j'ai. Il y a eu de très dures rencontres, place des Cordeliers. Les étudiants ont édifié une très grosse barricade, place des Cordeliers. Il y a également des barricades en travers du Rhône, sur le pont Lafayette. Dans le secteur de la préfecture, il semble que ça se calme un petit peu.
Combien sont-ils, ces manifestants, ce soir ?
Écoutez, je ne peux vraiment pas vous donner de chiffres. En tout cas, il est certain qu'il y en a plusieurs milliers. C'est tout ce que je puis vous dire pour le moment.
Merci. À tout à l'heure, si vous avez autre chose à ajouter, vous nous rappelez. Vas-y. Paris, Bagatelle 2630, Bagatelle 2691, des numéros que vous connaissez.
On entendait le correspondant Alain Coat à la manifestation de Lyon en mai 68 sur l'ORTF. Éric Vuillard, vous êtes né à Lyon le 4 mai 68 et il paraît qu'à quelques jours, votre mère vous a porté sur le balcon pour vous montrer votre père sur les barricades. Alors c'est un récit inaugural dont vous ne pouvez avoir le souvenir, mais l'avez-vous imaginé à force qu'on vous l'ait raconté ?
Oui, en fait, c'est une légende de la presse, en fait.
C'est vrai ?
Oui, comme souvent, en fait, j'ai dit quelque chose qui a été interprété. On a dû me demander si mon père avait fait mai 68. Il avait participé, en effet, aux événements. Il était sur les barricades. Bon, il était à l'époque étudiant. Mais, et on m'a demandé, donc, sans doute, quelque chose sur, ma mère, etc. Et j'ai dit que ma mère devait sans doute aller voir au balcon, puisque en fait il y avait des barricades qui barraient les différents ponts du Rhône, où la police aussi et s'affrontait là. Mais il n'a pas été question une seule fois dans ma famille de me raconter qu'on m'avait porté au balcon pour apercevoir, alors que je venais de naître, mon père sur les barricades.
Alors, nous journalistes sommes là pour donner de mauvaises informations. En tout cas, vous avez grandi à Lyon, et à environ 15 ans, vos parents se sont installés dans un village en ruine qu'ils avaient entrepris de remettre en état, si cette information est juste. C'était en sorte, là je vous cite, de cul-de-sac perché à 1000 mètres d'altitude dans les Alpes, et vous dites « ma vie a alors basculé ». Comment a-t-elle basculé ?
Oh bah parce que tout était changé, modifié, puisqu'auparavant, finalement, j'avais une vie normale, au fond, d'adolescent, enfin d'abord d'enfant et d'adolescent, vivant dans une grande ville, dans un milieu, disons, relativement protégé. Et puis, d'un seul coup, on se retrouvait à 1000 mètres d'altitude, dans un endroit totalement perdu. Il n'y avait pas d'autres habitants que nous. Et à l'internat, à une à peu près cinquantaine de kilomètres. Voilà, donc tout était modifié. Et puis, bon, le rapport, on peut dire, au confort était plus du tout le même, puisque mon père avait arrêté de travailler. Enfin, voilà, tout un tas de choses.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes mis à lire Rimbaud et Villon, qui sonne presque comme Vuillard ?
Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait à ce moment-là. C'est très difficile, on reconstruit toujours a posteriori ce qu'on a fait, ce qu'il y a de curieux avec le passé. J'ai revu il n'y a pas longtemps un ami d'enfance, alors il me racontait des événements que j'avais totalement oubliés, je lui en racontais d'autres dont lui ne se rappelait pas. Bon, le propre des souvenirs, c'est qu'ils sont fixés depuis longtemps et qu'autour, au fond, il n'y a plus grand-chose que de la brume. Donc, en plus, quand ça porte sur des choses aussi importantes pour nous que le métier que l'on a, l'écriture, etc., on reconstruit beaucoup trop. Alors, bon, j'ai idée qu'en tout cas, à l'adolescence, je me suis mis à lire. Enfant aussi, je lisais, mais bon, à quelle fréquence, j'en sais rien. Villon, je ne sais pas, en tout cas, c'est une poésie qui m'a tout de suite beaucoup touché, parce que c'est un sentiment que j'ai encore, j'ai eu le sentiment que pour la première fois, alors d'abord de mes lectures, mais ensuite sans doute aujourd'hui, je pense, dans l'histoire, dans la nôtre en tout cas, un poète, un écrivain s'adresse à nous presque directement, avec un ton familier,
posture, oui, quelque chose de contemporain chez lui.
Oui, c'est pas fabriqué, si vous voulez, c'est une parole directe, sans fierté, sans composition, sans costume. Alors, il y a des tas de poèmes qu'on connaît de lui, enfin, surtout La Balade des Pendus, avec comme ça cette amorce, Frères humains, enfin, si familière. Et puis, j'entends aussi le pauvre écolier qui fut nommé François Villon. Alors, même si le mot écolier ne veut pas tout à fait dire la même chose, voilà, il y a une sorte de plein-pied avec lui qui m'a beaucoup touché. Et puis, évidemment, ce qui est troublant quand on est adolescent, mais qui me trouble encore au fond, notamment avec mon livre, avec Les Orphelins, puisque c'est une chose à laquelle je n'ai pas songé en écrivant le livre, mais depuis, c'est qu'au fond, la balade des pendus, cette chanson, ce poème, eh bien, depuis ce poème, ce sont bien des petits criminels, des petits délinquants qui s'adressent à nous, des voleurs, des gens pendus. Et donc, peut-être que la première adresse directe de l'histoire de la littérature nous est venue de ce côté-là, ce qui est, somme toute, assez troublant et émouvant, peut-être.
Alors là, je voudrais revenir sur un autre souvenir d'enfance, mais je vais vous laisser la parole, puisque vous le savez sans doute mieux que les journalistes qui l'ont relaté, je ne voudrais pas commettre d'impair. Je crois que vous avez fait soit une fugue, soit une escapade, c'est à vous de me dire ce qu'il en était, en autostop vers l'Espagne, le Portugal, puis l'Italie. Vous avez quitté l'internat pour cela ?
Oui, oui, je suis parti plusieurs fois, comme ça.
Et ça ressemblait à quoi ? Vous le disiez à vos parents ?
En autostop, je ne sais plus ou moins... Pas forcément, enfin, mais je partais assez longuement, comme ça, pendant plusieurs mois, en fait, et principalement vers l'Espagne. Je ne sais pas ce qui m'a attiré là-bas, je ne sais pas, c'était le sud d'abord, sans doute, il faisait plus chaud, donc il y avait des raisons pratiques, et puis il y avait l'Afrique peut-être derrière, ça me faisait rêver, voilà, en tout cas, ça m'a aimanté, et puis voilà, je vagabondais un peu en Espagne, au Portugal.
En écrivant des poèmes ?
Alors, sans doute, mais parce que les poèmes, au fond, c'est léger. Il suffit d'avoir quelques bouts de papier sur soi. Bon, donc, et puis, beaucoup d'adolescents écrivent des poèmes.
Vous avez gardé certains de vos poèmes adolescents ?
Oui, je pense que je dois les avoir, au fond, de vieilles valises.
Vous ne les avez pas relus ?
Oh, j'ai dû les relire il y a quelques années, mais enfin, je ne les relis pas tout le temps. Donc oui, j'ai dû les relire il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années peut-être, quelques-uns, enfin pas tous, puisque maintenant, ce sont des feuillets, enfin, comme, ce sont des feuillets mal classés, de différentes époques, enfin, qui sont loin de moi.
Mais vous vous reconnaissez tout de même dedans ?
On est tous dans le même cas. Quand vous relisez, vous aussi, j'imagine, vos papiers, vous voyez du passé, on trouve à la fois la même personne et une autre, et puis surtout, on les connaît. Je veux dire qu'on... c'est comme quand on relit un livre. On l'a souvent totalement oublié, et puis, progressivement, les faits reviennent. Ils reviennent, en général, quelques instants avant qu'on les lise. Vous voyez, on est en train de relire, je ne sais pas, le Père Goriot. On a oublié beaucoup des péripéties, et même... ce qu'on a gardé souvent, c'est l'ambiance, le sentiment général. C'est ça qui nous frappe, au fond, qui nous laisse des souvenirs. Et puis, c'est pareil, je crois, quand je relis des choses du passé que j'ai pu écrire, je les avais oubliées, puis elles reviennent en lisant.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Comment évaluez-vous vous-même les effets de votre travail ? À qui votre travail s'adresse-t-il finalement et qui vous lie en somme ?
Par définition, je ne sais pas à qui il s'adresse. Si, j'ai pas mal de savoir à ce sujet, d'anticipation, d'images, mais il y a un point où, pas plus que quiconque publie, ou quiconque parle d'ailleurs, ouvre la bouche, la destination ne m'est assurée. Et je tiens que on ne doit pas essayer de maîtriser cette destination. C'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit. Cela dit, en même temps, j'ai essayé de marquer en quoi, par exemple, des questions déconstructrices ne pouvaient pas donner lieu à des méthodes, c'est-à-dire à des procédures techniques qu'on pourrait répéter d'un contexte à l'autre. C'est comme la photographie, on a beau poser, prendre toutes les précautions qu'on voudra pour que la photographie soit ceci ou cela, il y a un moment où la photographie vous surprend et c'est le regard de l'autre qui, finalement, l'emporte et décide.
Jacques Derrida sur France Culture en 1986 au micro de Didier Cahen. Éric Vuillard, c'est lui qui a dirigé votre DEA d'histoire et de civilisation. Quel souvenir gardez-vous de lui ?
Un bon souvenir. Alors, je l'ai peu connu, mais rencontré quand même. D'abord, j'ai suivi son séminaire et puis je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Et j'ai surtout quelque chose qui m'est resté, c'est que, alors que je rendais mon mémoire et que j'étais en retard, comme beaucoup d'étudiants, donc je suis allé le voir en disant « je ne peux pas encore le rendre aujourd'hui », il venait d'arriver de voyage et je n'ai pas eu le temps de lui dire « je suis désolé, je suis en retard ». Il m'a répondu tout de suite « oh là là, je suis en retard moi aussi sur tout ». Et il l'a dit très spontanément et donc avec, alors là on entendait sa voix évidemment dans une émission, il y a toujours quelque chose d'un peu solennel, mais avec un grand naturel qui m'avait touché, un sens de l'égalité assez rare.
Oui, c'est un joli souvenir. On parle de vos débuts et en fait, dès le début, ce qui s'affiche, c'est qu'il est question de prédation et de bestialité dans Le Chasseur, dans Bois Vert. Qu'est-ce qui vous fascine dans cela ? On en retrouve aussi dans les tableaux poétiques de Tohu. La bestialité, on l'a tous en nous ?
J'en sais rien, alors c'était sans doute, c'était lié pour moi à une étape peut-être un petit peu antérieure de mon existence, peut-être la vie en montagne, peut-être une existence plus, moins structurée en tout cas.
Mais presque plus proche du monde d'avant, des mythologies presque.
Oui, puis une existence un peu vagabonde aussi, du même coup, comme... Comment dire, c'était une écriture fragmentée qui correspondait sans doute à ma façon de vivre. D'abord matériellement, puisque j'étais pas sédentaire, au fond. Donc, au fond, entre cette forme, le contenu des livres et mon existence, il y a une sorte de lien, en fait, profond. Alors, sur Bois Vert, c'est pour moi davantage, c'est marrant, plutôt que bestialité, ce que j'y verrais plutôt, c'est une sorte de livre de jeunesse. Enfin, je trouve dans le titre, on entend que le bois vert, c'est ce qui sert à rien. Vous voyez, on ne peut pas le brûler, ça fait de la fumée. C'est inutile, mais vigoureux.
Oui, mais je pense à... Des heures durant, je marche, je me parle comme à un cheval. C'est-à-dire, il y a toujours des animaux.
C'est vrai, mais là, ce que j'essayais sans doute de trouver, c'est une image de ce qui nous arrive lorsque justement on piétine, on avance, vous savez, on se répète des choses. Au fond, la vie intérieure est beaucoup plus pauvre que ce que les romans veulent souvent nous faire croire. Plus répétitive, en tout cas, plus pauvre,
oui,
je ne sais pas.
On en prend le meilleur dans les
romans.
Voilà,
elle est peut-être intéressante d'ailleurs, cette répétition-là, mais il y a quelque chose un peu du cheval justement qui avance. Et c'est peut-être ça que j'ai voulu rendre à l'époque.
J'ai cité Tohu, dans Conquistador, vous narrez la chute de l'Empire Inca, vous narrez souvent des conquêtes ou des chutes, la vie ou la mort, vous préférez raconter la fondation ou l'effondrement ?
Alors je ne sais pas si c'est une préférence, j'ai l'impression aussi que c'est lié en partie à notre temps, c'est-à-dire au fond on est dans une époque où quelque chose nous désoriente tous, où on est... En quelque façon plongé dans un rapport particulier à la culture et à l'idéologie. Quand j'étais jeune, il y avait plusieurs idéologies en circulation très fortes. Au fond, si bien que entre les idéologies et la culture, il y avait des rapports complexes. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'une seule idéologie domine. Il y en a plusieurs versions, évidemment, et il y en a plusieurs. Il y a des anfractuosités, mais malgré tout, cette confusion entre l'idéologie et la culture, je trouve, est très grande. Si bien que il me paraît difficile d'écrire sur certaines choses quotidiennes, comment dire, qui se produisent autour de nous, sans être aussitôt, je crois, dans la confusion avec le passé et puis peut-être avec des, comme vous le dites, des basculements, etc. Ça nous pousse à essayer d'abord d'espérer peut-être quelque chose et puis aussi à se retourner vers ce qui est en partie la cause et à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
J'ai détaillé plusieurs des thèmes de vos romans dans l'introduction et j'ai fait exprès pour que ceux qui n'ont pas lu toute votre œuvre aient une idée du fait que vous racontez depuis de nombreux livres l'histoire des hommes sur plusieurs siècles et cette histoire marquée par la violence. Quel est votre rapport personnel à la violence ?
Alors, sur la violence, j'ai noté... Il y a quelques jours, une citation, je suis en train de lire L'ami commun de Dickens. Et alors, dans L'ami commun, Dickens écrit ceci qui n'a rien à voir tout à coup avec la narration, qui est donc, en quelque sorte, la parole de Dickens lui-même. « Débarrassez-nous de notre argent, dissipez-le à notre place, achetez-nous et vendez-nous, ruinez-nous. Seulement, nous vous en supplions, prenez rang parmi les puissants de la terre et engraissez-vous à nos dépens. » Il y a une violence, tout à coup, si on veut, qui jaillit comme ça dans la narration, qui est très forte. Et au fond, je pense avoir le même rapport que Dickens à la violence. Je me suis senti tout à fait familier de sa prose à ce moment-là et de cette apostrophe.
Alors, et que pensez-vous de la propriété et de la territorialité, puisqu'il en est souvent question ? Je pense à Congo, par exemple, qui évoque la conférence de Berlin, donc le partage de l'Afrique par les puissances coloniales européennes.
Eh bien, je pense que jadis, vous voyez, on divisait de façon très, très abrupte, au fond, ce qu'on appelle la démocratie formelle et la démocratie réelle, c'est-à-dire d'un côté des procédures démocratiques, égalitaires et libres, et de l'autre une égalité concrète, c'est-à-dire une égalité de biens, de patrimoine, en quelque sorte. Enfin, bon. Et donc, qui évidemment supposait en partie un régime de propriété fort différent de celui dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, ce qu'on constate tout de même, c'est que, au fond, la démocratie formelle, c'est-à-dire les procédures, sans une égalité réelle, au moins minimale, en fait, fonctionne très mal. C'est-à-dire, dans un régime d'inégalité économique comme aux États-Unis, eh bien, ça finit par être un milliardaire capricieux qui arrive, et quand je dis capricieux, c'est un euphémisme, qui arrive à la tête de l'État. Donc, au fond, il me semble, enfin, ce qui, moi, en littérature, m'a touché, enfin, entre autres, c'est la lecture de Rousseau, du discours sur les inégalités, enfin, sur les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui, quand j'ai dû le lire, je ne sais plus, en première ou quelque chose comme ça, m'a vraiment bouleversé, notamment dans ce petit passage allégorique où Rousseau tout à coup nous dit voilà, que lorsqu'un homme à l'origine a posé quatre piquets autour d'un champ et a dit ceci est à moi, les autres auraient dû en quelque sorte s'aviser que c'était là que ça allait être l'origine des malheurs du genre humain. Alors ce petit passage m'a aussitôt frappé comme d'autres chez Pascal etc., comme porteur d'une vérité très grande au fond.
Sommes-nous, selon vous, toujours autant dans le déni de la colonisation, puisque vous abordez aussi souvent le sujet, et elle est pour vous le moule de la mondialisation ?
Oui, je pense. D'ailleurs, au fond, enfin, comment dire, on voit que très, selon les les étapes, les moments. On nous tient un discours comme quoi, bon, ça suffit, la colonisation, on en a assez parlé, on a compris. Et puis là, on est en train de voir que dans une phase tout à fait nouvelle de l'histoire américaine, cette chose la reprend et que des gens même qui avaient refoulé finalement, la colonisation utilisent à nouveau eux-mêmes ce concept. Donc oui, je pense qu'elle est toujours à l'ordre du jour et que même elle structure foncièrement la vie des États entre eux. Enfin, qui pourrait aujourd'hui dire que les États africains sont libres de prendre leurs décisions. Ils sont sans cesse à subir des ingérences militaires, économiques, de tout ordre. Et puis, de la même manière, à l'intérieur des États, enfin Paris, toutes les villes occidentales sont structurées, au fond encore, par la matrice coloniale. Les banlieues sont peuplées par des gens qui descendent d'immigrés venus de nos empires coloniaux, enfin, etc., etc. Et la structure sociale est encore très largement structurée par ça, par des inégalités qui reflètent encore les inégalités coloniale. Et quand j'y reflète, c'est pour être gentil.
Dans vos récits, vous mêlez souvent la vie des humbles et des riches. Est-ce que les deux vous intéressent autant? Et je crois qu'il y a une interview où vous disiez qu'il était plus facile d'enquêter sur les laissés pour compte, sur les ouvriers de la société ferroviaire du Cameroun, par exemple, que sur des manias. Le capital protège.
Oui, alors, j'ai... Vous avez tout à fait raison, j'essaie de faire des livres où... parce que, comment dire, la tendance, voyons, au XIXe siècle, quand Zola écrit, il va écrire donc un livre sur les cheminots, un livre sur les mineurs, et puis au contraire, un livre sur la bourse, etc. Il segmente la vie sociale. Il segmente, il l'étudie de cette manière. Et puis, alors... Zola avait, lui encore, une possibilité d'enquête sur les différents milieux. D'abord par la position sociale qu'il occupait, qu'il a fini par occuper en tout cas, et parce qu'à l'époque, la bourgeoisie se fréquentait. De la même manière, Balzac plutôt a pu faire peu ou prou la même chose. Quand il partait le soir dans les salons, c'était pas seulement pour faire des courbettes, c'était aussi une manière d'étudier au fond le tout Paris. D'où d'ailleurs que dans ses portraits, enfin c'est pas la seule cause, mais on trouve principalement le haut de la société. Finalement, il fréquente pas tellement le bas. Alors aujourd'hui, quand on écrit, on appartient principalement aux classes moyennes, disons, et on fréquente assez peu le haut de la société, on a peu accès aux salons de Neuilly ou du 16e arrondissement pour les étudier. Peu, à mon avis, et, enfin en tout cas pour ma part, et de la même façon, on a d'ailleurs aussi peu accès au monde ouvrier, voyez, à moins de devenir à nouveau un établi et d'aller ce que certains ont pu faire. Voilà. Donc, d'où aussi d'abord le recours à l'histoire qui permet, pour une part, justement de ne plus segmenter la vie sociale. Puisque sinon, ça pose un problème, c'est qu'on perd les causes. Si on n'a pas le haut de la société, c'est-à-dire tout de même ce qui entraîne le reste, ce qui le dirige, on perd de vue l'origine, les causes des difficultés. Et puis, si on n'a pas le bas, alors on n'a plus les douleurs, on n'a plus le travail, on est comme Foerster, il n'y a pas longtemps je lisais ses cours sur le roman qu'il a donné à Oxford, alors il fait une liste de ce qui est important, alors il dit c'est manger, dormir, respirer, grandir, enfin, etc. Et au fond il oublie le travail. Je me suis dit, c'est étonnant, enfin, lui qui fait des romans dans lesquels le travail est pourtant présent, lorsqu'il théorise, tout à coup, il refoule l'argent et le travail, comme si c'était inessentiel à la vie romanesque, alors que pourtant dans ses romans, ils sont des éléments tout à fait centraux.
Mes frères, citoyens, 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 j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes.
Nous voulons la Bastille. Citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canons. Nous voulons la Bastille.
La Révolution française de Robert Enrico, film de 89, où Camille Desmoulins, interprété par François Cluzet, harangue la foule et l'entraîne vers la Bastille. Éric Vuillard, vous avez publié 14 juillet, qui retrace les événements du 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille. Il y a quelque chose tout de même qui charrie toute votre œuvre, c'est la révolte. Et vous dites dans une interview, toute révolte visant à l'émancipation est inspirante. Et la question est la suivante, l'émancipation n'est-elle pas condamnée à être toujours temporaire? L'histoire n'est-elle pas une succession d'émancipations et de mises sous le joug d'autres puissances?
Bien, On peut reprendre cette phrase de Jean-Paul Bichel, « Puisses-tu, David, lancer une autre fois ta fronde ?» Donc certes...
J'allais le faire, évidemment.
Il voilà, y a quelque chose qu'il faut sans cesse relancer, c'est certain. Mais tout d'abord, on peut voir que pendant ces deux derniers siècles, en dépit de hauts et de bas, en dépit de péripéties diverses dans l'histoire, disons au moins de France et l'histoire européenne, et même l'histoire mondiale, on voit bien qu'il y a un processus d'émancipation qui a été en œuvre et que ce qu'on appelait jadis peut-être l'histoire au pluriel, c'est-à-dire justement des histoires en quelque sorte qui n'auraient pas de signification, qui seraient une succession de péripéties peut-être héroïques, mais pas plus que ça, tout à coup prennent sens. C'est-à-dire que l'émancipation leur confère une sorte de colonne vertébrale significative qui entraîne en quelque sorte les hommes, leurs convictions. Et puis, je ne crois pas que ce soit seulement mes livres, je crois que d'une certaine manière, lorsque j'évoquais Jean-Jacques Rousseau, évidemment, il annonce ces choses-là. Il annonce les révoltes. Le petit passage de son fameux discours, au fond, emporte avec lui quelque chose de tout à fait brûlant. Et puis, ça traversera, on le voit bien, tout le 19e siècle. L'œuvre, le titre même de comédie humaine, de l'œuvre de Balzac, a quelque chose de très grinçant qui appelle quand même à quelques révoltes. Le Rouge et le Noir est un livre où la révolte gronde aussi. Et puis, Les Misérables, à mon avis, qui est le massif de papier le plus important du 19e siècle, là, au beau milieu du livre, une barricade célèbre où meurt un petit enfant.
Vous avez employé le mot annonce et justement, je sais que vous êtes très attentif aux détails qui annoncent certaines grandes catastrophes. Et c'est un détail qui vous a inspiré l'ordre du jour, le prix Goncourt, dans lequel vous retracez les coulisses de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en mars 38. Et c'est un détail dans... les mémoires de Churchill, je crois. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement ce dont il s'agissait et nous lire un extrait de ses mémoires ?
Oui, alors en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'avais déjà lu les mémoires de Churchill et quelqu'un me les a offerts de nouveau. Alors au début, évidemment, je ne comptais pas du tout les relire, même si l'ouvrage est très intéressant. Enfin bon, mais j'ai commencé à le feuilleter, c'était pour Noël, bon, je regardais, c'était une nouvelle édition de surcroît. Et puis tout à coup, en relisant comme ça quelques dizaines de pages, je me suis aperçu que la grande différence avec ma première lecture, parce qu'on dit toujours qu'on ne lit jamais le même livre deux fois, alors c'est vrai, mais c'est souvent dit d'une façon un peu artificielle, un peu comme si à chaque fois pouvait, je sais pas, exuder une signification nouvelle, même si on le relisait un quart d'heure plus tard. Bon. Or, ce que là, ça avait d'intéressant, c'est que c'était plus de 20 ans ou 30 ans plus tard. Et donc, au fond, à la première lecture, j'avais été guidé par les grands événements que j'ignorais, en partie en tout cas. Et puis là, alors, je les connaissais cette fois-ci, les grands événements. Donc ce qui m'a attiré, ce sont des petits détails, des choses auxquelles j'avais prêté aucune attention lors de ma première lecture et qui m'ont arrêté, donc, dans ce passage. À cette date, Heer von Ribbentrop était sur le point de quitter Londres pour prendre ses fonctions de ministre des Affaires étrangères du Reich. M. Chamberlain donna un déjeuner d'adieu en son honneur au 10 Downing Street. Nous nous y rendîmes, mon épouse et moi, à l'invitation du Premier ministre. Il y avait environ 16 convives. Ma femme était assise à côté de Sir Alexander Cadogan, près d'une extrémité de la table. Vers le milieu du repas, un envoyé du Foreign Office remit une enveloppe à Sir Alexander. Il l'ouvrit et s'absorba dans la lecture du contenu. Puis il se leva, se dirigea vers le Premier ministre et lui donna la lettre. Bien que l'attitude de Cadogan n'eût rien laissé deviner d'anormal, je ne pus m'empêcher de remarquer la préoccupation évidente du Premier ministre. Bientôt, Cadogan reprit sa place en conservant la lettre. On m'informa plus tard de sa teneur. Elle annonçait l'invasion de l'Autriche par Hitler et l'avance rapide sur Vienne des forces motorisées allemandes. Le repas se poursuivit sans la moindre interruption. Mais aussitôt après, sur un signe de son époux, Madame Chamberlain se leva en disant « Allons tous prendre un café au salon. » Nous passâmes donc au salon, et j'eus alors l'impression très nette, partagée sans doute par quelques autres, que M. et Mme Chamberlain souhaitaient en finir au plus vite. Une sorte de nervosité diffuse gagnait la compagnie, et chacun s'apprêtait à prendre congé des invités d'honneur.
Et c'est là qu'il vous a semblé saisir une subjectivité particulière, celle d'une élite anglaise trop polie et trop polie à l'égard des nazis.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Tu sais ce que je pensais quand j'étais enfant ? Je me disais que quand je serais grand, j'aimerais bien être un héros.
Eh ben, c'est manqué.
Pourquoi tu as dit ça ? Tu n'avais pas le droit de me dire ça.
Vous voulez que j'y aille tout seul ? C'est bien, j'irai.
n'aie pas peur de me mesurer à la bande de Butch Cassidy. Mais est-ce que vous raconterez à vos enfants que vous m'avez laissé partir seul? Moi, ça m'est égal.
On pourrait peut-être s'engager contre les Espagnols. Toi et moi, on s'ennuierait pas. Nous avons tous les deux des qualités inappréciables. L'expérience, la maturité, le goût des armes. Je parie qu'on deviendra officier. Moi, je serai le Major Parker.
Parker?
Oui, c'est mon vrai nom.
1969, Butch Cassidy est le Kid de George Roy Hill avec Robert Redford dans le rôle de Billy the Kid et Paul Newman dans le rôle de Butch Cassidy. Bon, là, c'était la version française. Éric Vuillard, vous publiez Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid aux éditions Actes Sud, un projet élaboré avant votre roman sur Buffalo Bill, Tristesse de la Terre, avec comme idée directrice d'écrire une histoire subjective des États-Unis par le filtre de personnages emblématiques. Et alors, là, vous partez tout de même d'une autre légende, et vous écrivez au conditionnel, c'est-à-dire que vous dites même, si l'on veut comprendre Billy the Kid, il faut dans un premier temps se résoudre à ne lire aucun livre. Alors comment avez-vous fait pour enquêter ou vous documenter ou ne pas vous documenter sur cet homme mort à 21 ans et dont on connaît surtout la vie grâce à l'assassin, son assassin, un shérif qui a rédigé un livre sur lui?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, quand j'écris, je ne décrète pas par avance que je vais écrire sur tel ou tel ou sur tel thème. Je n'avais pas l'idée d'écrire sur Billy the Kid, en fait. Je tombe sur certaines choses qui, au gré de mes lectures, des films que je peux regarder, des discussions, de tout un tas d'événements, en fait, de petites péripéties, s'agrègent les unes aux autres et viennent me troubler, en fait, remettent en cause une partie des idées que je pouvais avoir. Et alors, au départ, je n'ai pas forcément l'idée d'un livre. J'écris parce que c'est une de mes manières de réfléchir. Donc, et puis parfois j'ai envie, il y a quelque chose d'excitant. En l'occurrence, là, pour Billy, il y a eu plusieurs choses. Alors je ne peux pas en faire l'inventaire entièrement, mais peut-être l'une des choses qui m'a attiré au départ, c'est la photographie qui se trouve en couverture du livre et qui est une photo qui n'est pas une photo de Billy, qui est une photo de Jess Evans, qui est peut-être une photo de Jess Evans, puisque tout est à mettre au conditionnel. Et donc, de Jess Evans, c'est d'une jeune femme. Et sur cette photo, c'est la jeune femme qui tient le revolver. Alors, du coup, cette photo, au fond, m'a frappé, m'a attiré tout de suite, parce qu'il y a une sorte d'insolence superlative qu'on ne connaît pas ou plus. Et qui m'a à la fois touché, troublé. Je voulais savoir qui étaient ces gens-là. Alors j'ai fait des recherches. Alors la jeune femme, on ne sait pas qui c'est. Le jeune homme, c'est sans doute Jess Evans. Et là, je suis tombé tout de suite sur Billy. C'était un compagnon de Billy the Kid. Et là, voilà, ce qui avait d'étonnant, c'est qu'on croit prendre une petite route, un petit chemin de traverse, et on tombe aussitôt presque sur la grande route, c'est-à-dire un mythe mondial. Donc il y a eu ça et d'autres petits événements. Donc j'ai voulu, entre autres, élucider cette insolence, essayer de la comprendre. Et alors, en travaillant sur Billy, ce qui m'a rapidement touché et en même temps, troublé, c'est que plus je fouillais et plus tout tombait en poussière. C'est-à-dire qu'au fond, il s'appelle peut-être pas du tout Billy the Kid, enfin Billy en tout cas, ni Bonnet, ni McCarthy. Sa date de naissance est incertaine, son lieu aussi. Ses parents, on ne sait pas qui c'était, son père pas du tout, sa mère peut-être. Donc voilà, on a, comme vous le disiez, que du conditionnel. Et alors, j'ai mis à peu près 7 ans à écrire ce livre, j'en écrivais d'autres en même temps, mais à un moment, je me suis arrêté, enfin plusieurs fois, sachant pas trop que faire, puisque normalement, ce que cherche à faire un romancier, enfin, j'ai jamais beaucoup cru à cette version-là, mais c'est ce qu'on raconte, cherche à créer des personnages, à les remplir à la fois d'événements, de structures psychiques, de déchirements intérieurs. Bon. Or là, tout ce que je touchais, tombait en poudre et il n'en restait rien. Mais alors, étrangement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était l'inverse qui se produisait, que ce que j'avais cru, en tout cas, ce que j'avais craint même. C'est plus Billy se vidait, et plus il devenait touchant. Parce que plus il se vidait, plus il ressemblait à n'importe quel petit gars de cette région-là, à 17 ans. Il lui restait quelques caractéristiques, qui étaient la pauvreté, la précarité et la jeunesse. Et au fond, ça suffisait à faire quelque chose.
Et vous reprenez par exemple l'intitulé d'un procès-verbal d'un homme qui l'a tué, un homme qui fait une déposition juste avant de mourir. Mais ce qui semble vous fasciner et qui fascine le lecteur, c'est l'atmosphère, l'ardeur, la puissance, l'intensité. On n'a pas spécialement d'empathie pour le personnage de Billy. On ne se dit pas, tiens, il essaye de le réhabiliter, et vous n'essayez jamais de nous attendrir à son sujet. Alors qu'il a eu la jambe trouée, il apparaît plutôt comme... Enfin, c'est un voleur de bétail, il ne semble aimer personne, il est haï même par les gens... Voilà, l'idée n'est pas de le réhabiliter, n'est pas de nous émouvoir.
Bah, tout d'abord, en fait, j'y suis pas allé par un goût qu'on peut avoir pour la marginalité. Je ne préfère...
C'est ce que je me demandais.
Non, les marginaux sont pour moi égaux aux autres hommes, au fond.
Mais on dirait que ça vous fascine tout de même.
Non, ils ont ni plus ni moins d'intérêt, c'est d'ailleurs...
La révolte, la liberté.
Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment de révolte dans son cas? Peut-être. C'est-à-dire qu'en tout cas, effectivement, vous avez raison, dans cette photographie, il y a une dimension de liberté. Seulement, c'est une liberté très éloignée de l'idée que moi je me fais de la liberté, puisque c'est une liberté sans contenu. C'est une liberté qui n'a aucun contenu politique, aucun projet, rien. Mais c'est aussi ce qu'elle a de beau et que je suis bien obligé de voir et d'essayer, peut-être pas d'élucider, mais d'essayer d'en parler, de m'en approcher. C'est-à-dire que cette liberté qu'on voit sur cette photographie, je crois de manière flagrante au fond, qui même nous injurie un peu, nous saute aux yeux et nous dit qu'on est des honnêtes gens et qu'on a une vie médiocre, inoutoise, eh bien cette liberté, elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend quelque chose à la fois sans doute de beau, une forme d'ivresse, qui est aussi celle de la jeunesse, mais aussi quelque chose de triste, c'est qu'elle est vaine, puisque ces gens-là mourront tous très jeunes et pauvres.
L'année 2026 coïncide avec les 250 ans de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis. Est-ce que la façon dont ont tourné les États-Unis vous surprend quand vous observez d'où ils sont nés ?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, en tout cas, en ayant travaillé, puisqu'au départ, assez vite, il s'est agi d'écrire sur Billy, d'essayer de suivre ces petits garçons vachés, de raconter leur existence. Et puis, je me suis intéressé évidemment à ce qu'il y a autour, puisque le livre s'appelle « Une histoire et pas une vie ». Et je crois qu'en général, c'est ça que fait la littérature. On croit trop souvent que la littérature raconterait une vie. Je citais tout à l'heure le Père Goriot, mais c'est pas tout à fait une vie. C'est pas la vie du Père Goriot, c'est pas la vie de Jenny Grandet qui nous est racontée par Balzac. C'est la vie de tout un milieu. Le Père Grandet, son travail... L'appât du gain, le jeune cousin qui arrive, de la même manière avec le Père Goriot, c'est Rastignac, c'est à moins Paris, enfin. Donc, on le voit bien, le périmètre des livres est beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine, et très au-delà, au fond, de la psychologie. Si bien que, moi aussi, en m'intéressant à Billy, je me suis intéressé à son milieu, aux enjeux dans lesquels il était pris, aux rapports de force, et très vite, je suis tombé sur d'autres personnages juste au-dessus de lui, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens. Et c'est eux qui ont rendu vaine la triste vie, finalement, de Billy et de Jesse Evans, puisqu'ils travaillaient, en réalité, à la constitution d'immenses monopoles qui sont, on peut le dire, au fondement de la confiscation de la démocratie américaine, encore ouais. Aujourd'hui.
Ça, on va y revenir, ainsi qu'à la naissance de l'économie de marché que vous décrivez très bien.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Knocking on heaven's door de Bob Dylan, qui figure sur l'album Pat Garrett and Billy the Kid, bande originale du film homonyme de Sam Peckinpah. Et Pat Garrett, c'est le shérif qui publia la fameuse vie authentique de Billy the Kid, puisque Billy the Kid, on le disait juste avant, avec vous Éric Vuillard, a eu sa vie rédigée par son propre assassin. Et voici maintenant votre choix musical.
Be the key. Are you?
De Kay de Kat Onoma.
Oui, donc c'est. On entend bien, c'est une musique sourde avec une poésie au fond abrupte et tendre qui vient, donc est une adaptation des poèmes de Jacques Spicer, qui est un poète de la Beat Generation. Et ce qui me plaît, c'est la liberté nonchalante qu'on entend dans cette chanson. Une forme à la fois un peu mélancolique et un peu triste, mais nonchalante qui consonne bien avec l'idée que je me fais du Kid. Et puis avec cette. Justement, cette enfance qui est aussi la nôtre, toujours effacée, toujours oubliée. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, quand on nous demande de nous rappeler de notre enfance, au fond, ce qu'on a principalement, c'est de la brume. Et que peut-être que voilà, cette chose-là me rappelle Billy, un jeune garçon mort à 21 ans.
Alors vous avez plus de souvenirs des siècles qui nous précèdent peut-être que de votre propre enfance. En tout cas, vous savez comment est née l'économie de marché. Et ça, c'est très intéressant puisque dans Les Orphelins, Éric Vuillard, vous montrez bien que les capitalistes, les marchands, ont besoin des voleurs pour vendre de la viande à bon prix. Et vous écrivez « La grande propriété avait besoin d'eux, les hommes d'affaires avaient besoin d'eux, l'armée avait besoin d'eux, le congrès avait besoin d'eux et l'armée avait besoin de bidoches ». Vous montrez cela. Et vous montrez aussi que les malfrats sont devenus officiers de police.
Oui, c'est d'ailleurs une chose qu'on voit aujourd'hui de nouveau avec l'ICE, finalement, en tout cas avec des modes de recrutement sommaires. On s'aperçoit qu'effectivement, ils sont capables de commettre des crimes brutaux. Et ce qui m'a étonné, là, dans les événements tragiques ces derniers temps, c'est de retrouver des choses que j'avais écrites des mois auparavant et qui m'avaient moi-même un peu étonné, enfin, pas totalement tout de même, mais c'est de découvrir combien les forces de police au Nouveau-Mexique et un peu partout aux États-Unis s'étaient formées par l'agrégation de ces petits délinquants qui sont tout à coup inutiles, puisqu'une fois que les grandes inégalités sont en place, que les grands monopoles ont été constitués, eh bien, il faut se débarrasser d'eux. Alors d'abord, il faut qu'ils puissent conserver, au fond, ces grands monopoles. Ils en deviennent les gardiens. Quant aux autres, comme Billy, eh bien, il faut les abattre. Voilà. Alors, à ce moment-là, arrivent les grandes procédures, c'est-à-dire qu'il faut couvrir, au fond, ces inégalités réelles. Et on les couvre du drap de la démocratie, donc d'une égalité formelle. Et ces mêmes grands propriétaires vont devenir qui sénateur, qui attorney général, qui dirigeait la banque de Santa Fe et qui représentant au Congrès. Et les familles, donc comme Catron, Axel, ceux que je cite dans le livre, le sont encore en partie aujourd'hui.
Il y a, si vous voulez, comment dire, dans la phrase et dans la, c'est la même chose avec la biographie, le besoin de mettre un début et une fin, le besoin de mettre une naissance et une mort. Dans ce que nous éprouvons vraiment en profondeur, Dieu merci, c'est pas le cas. Et la narration est faite, comment dire, pour l'après-coup, si vous voulez. De même que l'histoire est un mythe, il n'y a pas, bien sûr qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a qu'une narration qu'on fait autour de tous les chaos qui nous agitent et de toutes les peines et des douleurs qui traversent l'humanité.
C'est l'écrivain Pascal Quignard qu'on entend dans la 20e heure sur la chaîne en 2023. La découverte que vous avez choisie, Éric Vuillard, pour les auditeurs, c'est son roman « Il n'y a pas de place pour la mort ».
Voilà, oui, qui est son dernier roman, et j'avais d'ailleurs noter un passage qui n'est pas sans rapport avec ce qu'il était en train de dire. Combien ces sentiments qu'on croit être parvenus à nommer indiquent mal, ce qui est vraiment vivant dans le trouble de vivre. Et j'ai eu le sentiment de retrouver l'impression que j'avais eue en essayant d'écrire Billy et en perdant petit à petit les oripeaux du mythe. Et au fond, c'est toujours comme ça. Il faut en quelque sorte renverser le langage, chercher sans cesse une autre langue, un peu plus fine, un peu plus ardente, pour nommer ce qui est vivant dans le trouble de vivre.
Démocratie. Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. Au pays poivrés et détrempés, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires.
C'est le poème « Démocratie » d'Arthur Rimbaud, lu par Jean-Pierre Joris sur France Culture en 72. C'est un poème que vous affectionnez, Éric Vuillard, et notamment l'un des vers qu'on a entendu, « Nous massacrerons les révoltes logiques ».
Moi, je trouve que « révolte logique » est une expression, enfin ça a été le nom d'ailleurs d'une revue, etc. C'est une expression très belle, puisqu'au fond elle dit qu'effectivement, comme... Je disais que ces 200 dernières années, quelque chose était apparu qu'on avait appelé l'histoire, au fond, et qui donnait une sorte de signification, de possibilité en tout cas de signification, à la vie collective, qui faisait d'ailleurs qu'on formait une unité, ce qu'on appelle l'humanité, qu'elle pouvait avoir, en somme, un destin, ou en tout cas un horizon. Eh bien, c'est ça, les révoltes logiques, et ça pourrait être un assez bon titre pour notre temps.
C'est très beau, les révoltes logiques. Alors, justement, en parlant de titre, il nous reste exactement 30 secondes pour que vous nous recommandiez un livre de n'importe quelle époque, n'importe quoi, sans rapport avec ce qu'on vient de dire ou avec, comme vous voulez.
Oh, ben, ce serait un livre de Dickens. J'ai relu Le Magasin d'Antiquités. Et il y a une chose qui est très forte, c'est que... Alors, il a été très célèbre pour l'émotion suscitée par la mort du personnage principal, une petite fille, la petite Nell, au point qu'un député irlandais a même déchiré et jeté son journal en disant « Pourquoi l'a-t-il tué ?» Et je crois que quand je l'ai lu, j'aurais pu faire la même chose avec le livre.
Merci beaucoup Éric Vuillard.
Merci.
Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid vient de paraître aux éditions Actes Sud. À signaler aussi, Conquistador sortira en poche dans la collection Babel chez Actes Sud le 4 mars prochain. Et L'Ordre du Jour sera adapté à la Comédie Française par Jean Bellorini du 25 mars au 3 mai prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Laurent Baudouin. À demain. Thank you.